Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Ce soir, jusqu'où aller pour sauver son usine ? Ford ne produira plus de matériel de transmission automobile à Blanquefort, en Gironde, après 2019. Ni rien d'autre d'ailleurs sur ce site industriel. Le constructeur américain l'a annoncé il y a tout juste une semaine. Il va ouvrir des négociations sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Les 910 salariés du site sont concernés. Des salariés qui, hier, étaient appelés à se rassembler pour s'opposer à la fermeture de leur usine. Sans grande conviction toutefois, malgré l'hypothèse d'un repreneur. En tout cas, on peut en juger par la teneur du tract distribué par la CGT. On peut lire ce Aussi, depuis plus de deux mois, à part quelques actions, nous n'avons pas été capables de nous mobiliser vraiment. Ford a dû être surpris du calme et a dû logiquement voir que la voie était libre. Constat presque désabusé d'un syndicat confronté à une forme de résignation de la part des salariés face à ce qui paraît inéluctable. Alors comment lutter et à quoi bon lutter dans ces conditions ? Eh bien c'est entre autres à ces questions que répond le film En guerre. Le réalisateur Stéphane Brisé y raconte le combat de salariés confrontés à l'imminence de la fermeture de leur usine. Il met en scène un large répertoire d'actions pour tenter de s'y opposer. Grève, blocage, actions judiciaires, sacrifices financiers, mobilisation médiatique, violence, mais aussi toute la gamme des sentiments qui accompagnent ce genre de lutte. Alors jusqu'où aller pour sauver son usine ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités, notamment justement de Stéphane Brisé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur et scénariste. En guerre est en salle depuis quelques jours.
Quelques semaines.
Depuis quelques semaines. C'était au mois de mai que le film est sorti en salle. L'acteur principal, c'est Vincent Lindon. Récit du combat donc de salariés d'un équipementier automobile, ce qui évidemment fait quelques parallèles avec ce qui est en train de se passer à Blanquefort en Gironde. L'équipementier s'appelle Perrin Industrie. Il y a donc ce combat pour essayer de sauver et les emplois et l'usine. Pour discuter avec vous, quelqu'un que vous connaissez bien, parce que vous l'avez beaucoup rencontré justement pour écrire ce film.
On a travaillé ensemble sur le scénario.
C'est Xavier Mathieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aujourd'hui comédien, ancien délégué syndical CGT de l'usine continentale de Clairoy dans l'Oise. Vous avez donc contribué à ce scénario. Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de Radio France à Marseille, il s'agit de Rémi Dri. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes salarié et membre du conseil d'administration de la coopérative Scopti. Alors Scopti, c'est une coop qui commercialise la marque de thé 1336. 1336, pourquoi ? Bien parce que c'est le nombre de jours de lutte que vous avez mobilisé pour sauver l'activité de l'usine Fralib qui, elle, commercialisait la marque de thé Éléphant. On aura bien sûr l'occasion de revenir justement sur ce qu'a été cette lutte pour vous et comment vous avez réussi, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, à sauver cette usine. Alors, il faut bien préciser d'ailleurs que dans les différents cas qu'on aborde, les cas réels, disons les Conti, Fralib, et puis le cas fictionnel de cette usine Perrin, on est face à des fermetures d'usines de la part de groupes qui considèrent que l'usine n'est plus suffisamment rentable, mais qu'elles font à chaque fois quand même des bénéfices. Est-ce que ça, déjà, c'est un élément important de motivation pour mener une lutte, Xavier Mathieu, c'est-à-dire de savoir que l'usine, elle peut quand même fonctionner, elle peut faire des bénéfices et donc que ça vaut le coup de se battre pour essayer de la sauver.
Je sais pas si c'est une histoire de coup de se battre, c'est juste une histoire de révolte, c'est une histoire de colère. Les gens, les trois quarts des gens de toutes ces entreprises ont fait des efforts pendant des années, ont fait même des sacrifices financiers pour sauver leur entreprise. Pour arriver au bout du compte à ce qu'on les vire quand même, c'est-à-dire c'est triple peine, c'est-à-dire c'est des gens qui ont accepté de baisser leur salaire pendant des années pour sauver leur boîte. Première peine, ils ont perdu du salaire. Deuxième peine, ils sont virés quand même. Et troisième peine, quand ils se retrouvent à Pôle emploi, leur salaire est calculé sur un salaire qu'ils ont accepté de baisser pendant des années, donc triple peine. Donc les gens sont en colère, se battent. La motivation pour les gens de se battre, c'est surtout que c'est totalement injuste. C'est pas des fermetures pour raisons économiques, c'est des fermetures pour raisons d'économie.
Mais justement, les raisons de se battre, ça n'est pas forcément avec l'objectif final de sauver l'usine, c'est d'abord se battre.
Se battre pour sauver l'usine, pour essayer de déjà par les tribunaux de faire invalider les fermetures d'usine. Et on se rend compte que en fait la vraie bagarre elle devrait commencer chez les politiques, elle devrait commencer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire faire des lois pour quand il n'y a aucune raison économique forcer un patron à ne pas fermer l'usine. parce qu'en fait, au bout du compte, même si vous gagnez, les Conti, on a gagné, en fait. Fermeture d'usine, il n'y avait pas de raison économique à la fermeture de l'usine. Quatre ans après, Continental a payé, ils ont payé quoi, deux ans, trois ans de salaire, et alors, la vraie justice dans ce cas, vous avez signé un contrat à durée déterminée avec des employés, vous les avez licenciés illégalement, la vraie justice, ce serait que ces employés soient ce qui était prévu dans leur contrat, c'est-à-dire qu'ils aillent jusqu'à leur retraite et de payer. La vraie justice, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Même si on se bat, on se bat pour des miettes, en fait, ils ont la loi avec eux, quoi qu'il arrive. Et même quand ils ne l'ont pas, de toute façon, Continental a payé 300 millions d'euros pour fermer cette usine. Ils ont gagné 7 milliards depuis.
Rémi Dri, au début de la lutte des Fralib, l'objectif c'était quoi? Est-ce que c'était justement d'empêcher cette usine de fermer la porte? Ou bien est-ce qu'il y avait déjà dans l'idée d'être en mesure de reprendre l'activité si ça se passait mal?
Déjà au début, on s'est battu justement pour refuser la fermeture. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que le groupe avait décidé. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on occupe notre usine 24-24 pendant des années pour garder justement et aider le projet alternatif. Parce qu'on devait être force de proposition. Donc de démontrer que c'était possible. Et en plus, comme vous disiez tout à l'heure, ces multinationales ferment ces unités non pas parce qu'elles font pas de bénéfices, mais justement parce qu'elles en font pas assez. C'est-à-dire, pour nous, c'était 0,02 centimes de plus dans une boîte. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de lutter, mais c'était une décision collective. S'il vous plaît, si vous voulez, pendant les AG, il y avait toute l'usine. Donc, vous aviez la majorité qui avait décidé d'occuper pour se battre, pour justement... La meilleure manière de garder son emploi, c'est de préserver le sien. Surtout qu'on sait aujourd'hui que le nombre de fermetures d'entreprises est toujours d'actualité. Il y en a toujours de plus en plus. Bon, moi, par mon expérience personnelle, j'ai fait 7 ans d'intérim. Donc, le travail précaire, je connais. Et lorsque je suis rentrée en CDI dans ce groupe-là, je savais que si je perdais celui-là, j'allais autant galérer pour en trouver un autre derrière, puisque l'âge aussi est impliqué. Donc, on a lutté... Il ne faut pas accepter la fatalité, il n'y a pas de fatalité, puisqu'on en est la preuve aujourd'hui, 8 ans après l'annonce de la fermeture, puisqu'ils ont annoncé la fermeture le 28 septembre 2010. Aujourd'hui, en 2018, l'usine tourne toujours et vous avez 40 salariés qui travaillent.
Alors, ça, justement, pardon. Allez-y, je vous laisse conclure.
La bataille paye, mais il faut juste que ça soit une décision collective et qu'il y ait une lutte, justement, collective.
Alors je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement ne pas accepter la fatalité, le fait qu'il y ait une lutte collective, ça c'est ce qui est vraiment au cœur de votre film Stéphane Brisé, avec, on le voit hein, assez régulièrement et assez progressivement, la tentation qui peut être celle de certains salariés dans cette lutte au fur et à mesure qu'elle dure, et où donc les sacrifices financiers deviennent très, très importants, d'accepter presque cette fatalité.
Oui, avec des arguments de part et d'autre qui sont audibles. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de lutte, certains salariés disent « nous, on peut pas continuer ». Alors certains, parce qu'ils n'y croient plus, les mêmes ou d'autres parce qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Tout ça, c'est audible. Moi, j'ai eu des témoignages de DRH pour écrire le film. C'était important, disons, d'avoir le témoignage de Xavier, de travailler avec Xavier, mais aussi d'avoir le témoignage d'avocats, de salariés, mais aussi d'avocats de patrons, de DRH. Et puis de politique aussi pour mettre à plat et côte à côte tous les discours, parce que finalement c'est un film avec des gens qui parlent tous la même langue, le français, mais qui ne se comprennent pas, donc en fait ils ne parlent pas la même langue. Et c'est intéressant d'ailleurs tout ce qui se dit avec les mots, quand tout à l'heure vous avez évoqué un PSE qui est un plan de sauvegarde de l'emploi pour renvoyer les gens. On est quand même dans une forme d'ironie du langage qui est assez dingue. Et
qu'avant ça s'appelait plan social, hein. C'est oui, la novlangue qui a...
Oui,
qui
mais
a...
la novlangue, elle véhicule aussi des idéologies, c'est quand même pas rien. Et justement, les DRH que j'ai rencontrés, je me souviens très bien, ils m'ont dit, il s'agit de... On sait très bien que la décision, c'est une décision, dans ce cas-là, qui n'est pas juste, d'une entreprise qui fait des bénéfices, charge à nous de faire dire aux chiffres ce qu'on a envie qu'ils disent, et on a notre sésame absolu, c'est problème de compétitivité dans notre secteur d'activité. Donc avec ça, on fait ce qu'on veut. J'étais étonné, en fait. Moi, j'avais besoin d'être sur le terrain et j'ai été étonné que finalement, c'était une bataille de mots. Finalement. Et c'est pour ça que dans le film, je fais dire à un économiste, il ne s'agit pas d'un problème de compétitivité, mais de profitabilité, de rentabilité. Il explique ce que c'est que la rentabilité, c'est que des actionnaires veulent des retours sur investissement forts et rapides. Et elle me disait aussi, donc voilà, c'est une femme qui témoignait, une DRH, il me disait, vous savez, nous, on sait qui sont les salariés, on les connaît, puisque... 6 mois avant, 8 mois avant, il se peut qu'il y en a un d'entre eux, ça peut être un dirigeant syndical, qui est venu en me disant, voilà, je vais me séparer, c'est compliqué, voilà. Ils savent des choses sur la vie des gens. Et on l'utilise à ce moment-là. Au bout d'un mois de lutte, on sait très bien que c'est des gens qui n'ont pas forcément des sommes, beaucoup d'argent d'avance, et ils utilisent cette situation pour, au moment opportun, même parfois donc en cachette, hein, dire, aller agiter des chèques, parler. Et j'ai même pas évoqué dans le film le cas de chèques sous la table, etc. Donc il y a toute la complexité de l'humain, toutes les compromissions sont possibles à ce moment-là. Et après, il s'agit non seulement de défendre effectivement son travail, ça, mais c'est aussi une idée du monde que les salariés, quand ils se battent, expriment.
Alors, illustration justement de l'utilisation des faiblesses, ou en tout cas des situations personnelles de certains, avec l'idée d'essayer de rompre le front syndical. Au début du film, il est uni, et puis petit à petit, ça va se déliter, et on va retrouver dans un camp des syndicalistes menés par Vincent Lindon qui veulent vraiment mener la lutte jusqu'au bout, et puis d'autres qui commencent à justement se laisser gagner par l'idée que de toute manière, l'usine va fermer, donc il vaut mieux essayer d'obtenir un maximum de choses.
Il y a des bruits de couloirs là, qui commencent à être un petit peu dérangeants. Du coup, on va te demander directement, Bruno, est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré la direction sur le sujet d'un supralégal ?
D'abord, c'est pas nous qui les avons sollicités, c'est eux qui nous ont demandé de nous rencontrer.
Oui, après, je te demande pas qui est allé voir qui, mais vous les avez vus, quoi.
Oui, on s'est pas caché, en plus, et puis j'étais pas tout seul. Hein.
Juste, vous avez été voir la direction pour parler de la supralégale, et sans nous consulter.
Ouais, ah oui,
mais
c'est
il est là le problème.
Pourquoi te consulter?
C'est un problème.
On sait très bien ce que tu allais nous dire.
Bah oui, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire. Bah oui, ma réaction, tu la connais?
Bah oui,
je retourne pas ma veste, moi, dès qu'on me brandit un chèque sous le nez.
Normal. On ne retourne pas notre veste, je suis désolé.
Si,
c'est pas la peine.
Si.
C'est pas la peine de faire des grandes phrases.
Ça s'appelle... Non, je sais pas des grandes phrases. Je sais pas des grandes phrases. Ça s'appelle retourner sa veste. Aller discuter de la supralégale avec la direction au moment où on en est en ce moment. C'est exactement comme si tu disais que tu étais d'accord avec l'idée de la fermeture de l'usine. Si. Il est là le problème. Mais ça veut dire ça.
À un moment donné, quand ça bloque, on change de stratégie. C'est ça que ça veut dire. Ça fait 2 mois qu'on bloque, 2 mois qu'on est dans la lutte. D'accord ? Pour quel résultat finalement ? T'as une direction française qui n'a pas changé de discours. Et on demande de rencontrer et de discuter avec la direction allemande. Et elle refuse toujours. Donc à un moment donné, c'est juste arrêter d'être con. C'est ça. C'est juste arrêter d'être con.
Les gens vont se calmer sur les mots.
Voilà, extrait d'Anguère, la supralégale, alors pour préciser, hein, c'est le petit plus ou le gros plus qui est proposé aux salariés, en plus des indemnités légales de licenciement. Xavier Mathieu, ce genre de discussion, c'est des discussions que vous avez pu avoir justement entre syndicalistes pendant la lutte des Contis, avec certains qui se laissent gagner peut-être par, alors je ne sais pas si on peut parler de résignation, et puis d'autres, c'était manifestement votre cas, qui voulaient vraiment aller jusqu'au bout de la lutte. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer de remotiver les gens quand le conflit dure, ce qui a été le cas chez les Contis?
C'est la stratégie des gens d'en face. On se coud des chèques, on essaye de... Et puis il y a des gens qui sont dans une situation, le mec qui divorce justement, qui se dit si je touche 25-30 000 euros, ça va me régler mon divorce, ça va me faire permettre de vendre ma baraque. C'est des solutions instantanées qui sont pas sur l'avenir. Un chèque, même chez Conti, on a touché... entre les raisons économiques, machin, et on a touché 3 ans, peut-être 4 ans de salaire. Les gens vont dire, putain, c'est énorme, 4 ans de salaire.
C'est compliqué de donner tort, en plus, à ceux qui pensent ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a le court terme, il y a l'urgence, et l'urgence, ça peut être justement de ne pas perdre trop d'argent. Parce que quand on fait une grève, c'est d'abord, quand on occupe une usine, qu'on ne travaille pas, on perd de l'argent.
Mais c'est ça qui est compliqué, c'est d'expliquer à des gens que quand on fait grève pour essayer de sauver son usine, d'expliquer à des gens qui viennent te voir, qui disent mais attends, mais là, moi, ça fait une semaine, 15 jours qu'on fait grève, je mets quoi dans mon caddie samedi prochain? Mais tu dis, mais là, c'est pas une lutte pour savoir ce que tu vas mettre dans ton caddie samedi prochain, c'est une lutte pour savoir ce que tu vas mettre dans ton caddie dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc c'est un investissement, en gros. C'est une histoire d'un, enfin, et donc voilà, le problème n'est pas là. Et en fait, tout ça, c'est très bien d'expliquer dans le film. T'as des gens qui disent ils sont usés, ils sont fatigués. Et après, il y a aussi beaucoup des excuses. Dire je suis fatigué de lutter, c'est moins fatigant de lutter que de travailler sur l'usine à taper dans une pédale pendant 8 heures en 3-8 la nuit. Enfin, après, tout ça, c'est des excuses. On est fatigué. Enfin, quand t'as travaillé en 3-8 pendant 25 ans, t'es pas fatigué de te battre psychologiquement peut-être. Il y a des pressions, voilà. Mais c'est pas un chèque qui va t'apporter la solution. Mais en fait, on revient, enfin, sur le film par lui-même, je tiens quand même à dire, c'est que ce film, c'est pas seulement des gens qui luttent, c'est pas seulement des gens qui utilisent une stratégie pour sauver leur usine, c'est aussi et surtout, je pense que Stéphane aurait pu l'expliquer, mais c'est surtout pour expliquer aux gens qui voient, quand ils voient des gens arracher une chemise, pour expliquer à ces gens à qui on n'explique pas du tout pourquoi ils en sont arrivés là. C'est pour que ces gens aillent voir ce film et se disent putain, mais ouais, effectivement, cette putain de chemise arrachée, c'est quoi à côté de tout ce que ces gens ont subi, de tout ce que ces gens vont subir après, c'est rien. Et je pense que c'est ça aussi le but du film. Et en même temps, je vais utiliser un terme jupitérien, je suis désolé, et en même temps, ça montre aussi comment lutter, et ça montre aussi que la seule façon de réussir dans la vie, la seule façon d'obtenir des choses, même si on n'obtient pas tout, même si on ne gagne pas toujours, c'est le collectif, c'est l'union entre les gens, c'est surtout ne pas se diviser. Et je pense que tout ça est bien montré dans le film.
Stéphane Rizet.
Oui, déjà, force est de constater que les Continental, ils avaient un porte-parole de qualité. Quand même, là, ce qui est devenu mon porte-parole perso,
c'est important d'ailleurs peut-être d'avoir aussi un leader, même si on lui reproche à Vincent Landon dans le film.
Oui.
À un moment donné, il prend un peu trop la lumière.
Mais c'est aussi un argument qui peut sortir comme ça, un argument bête, parce que tout d'un coup, il y a un peu une starisation du leader syndical, et effectivement, il y a des gens qui peuvent lui reprocher de passer à la télé, ce qui est complètement crétin. Mais c'est intéressant, évidemment, c'est important ce sur quoi appuie Xavier. C'est effectivement un moment, on décide de faire un film, on se dit, finalement, pourquoi faire des images en plus sur un sujet dont on parle pourtant tous les jours à la télé, ou dans les médias, ou presque tous les jours. Finalement, c'est parce que je suis obligé de constater, moi, que j'en sais pas grand-chose, finalement, de ces sujets. Oui, et puis un jour, je peux croire que j'en sais quelque chose, c'est que je vois des images d'une violence inouïe qui déboule sur tous les écrans. Je pense évidemment à la chemise arrachée. Ces images,
c'était Air France, voilà.
Donc, c'est quand ça surgit sur les écrans, c'est pas rien, c'est un état de sidération. Et assez naturellement, n'importe qui, normalement constitué, est en empathie avec ces deux messieurs qui se font arracher la chemise, immédiatement. Mais il ne reste que ça. Et l'image tourne en boucle, et tourne en boucle, et tourne en boucle. Et finalement, à ce moment-là, la scène est tellement violente, est tellement sidérante, que les revendications des salariés, la parole des salariés, elle n'est plus audible du tout. Il n'y a plus d'espace pour ça. Donc, en tant qu'individu, passé l'état de d'étonnement, de sidération de cette image, je me questionne, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des hommes et des femmes en arrivent à cet état de violence. Je pense, sans idéologie aucune, que la violence ne découle que de la colère, et la colère ne découle que de la souffrance. Donc c'est l'organisation classique de ces mécanismes. Donc, les nouvelles images que je vais créer, ce sont des images de fiction, pour éclairer finalement ce qui se passe avant le moment de violence qui surgit sur les écrans.
Sachant que ce que vous montrez bien, c'est aussi que justement les syndicalistes, les salariés sont très attentifs à ce que le mouvement ne déborde pas pour que ça ne devienne pas un mouvement qui est plutôt soutenu par la population ne devienne pas quelque chose d'impopulaire, parce qu'ils savent très bien qu'elle peut être la force des images. Est-ce que Rémy Dri, dans le long combat qui a été celui des Fralibles, hein, faut rappeler à la marque de thé 1336, elle est liée donc au nombre de jours pendant lesquels vous avez lutté pour essayer et de sauver l'usine et ensuite de la reprendre sous forme de coopérative. Est-ce qu'il y avait déjà cette préoccupation de ne pas, alors quoi, de ne pas aller dans certaines formes d'action qui pourraient se retourner contre vous?
Vous savez, on a une intelligence collective, comme on disait, on réfléchissait en collectif. Donc, c'est pendant les AG, on décidait des actions à mener. Donc, on a tout fait on a essayé d'être le plus dans le juste. Donc, on a fait des initiatives, des manifs. On a occupé le ministère de l'Agriculture pour qu'il nous reçoive au ministère. Mais on a toujours été suivi par la population, puisqu'il a adhéré à notre combat. On a toujours été dans les règles, mais aussi il y a aussi la provocation patronale aussi, il faut pas oublier, parce que vous parliez tout à l'heure des mots, mais les mots utilisés souvent par la direction ont un air de provocation. Lorsque vous parlez de plan de sauvegarde de l'emploi, c'est plutôt un plan de sabordage de l'emploi pour nous, puisque lorsqu'il y a un plan social, c'est parce que ça va fermer quoi. Donc les mots pour un salarié paraissent tellement durs. Lorsqu'on vous annonce une fermeture, vous prenez un coup de poing dans la gueule. Hein. Vous ne réalisez pas pendant quelques temps, mais vous vous rendez compte que ça va fermer. Donc, nous, on a toujours fait attention et on a toujours décidé collectivement et on a toujours été... Le syndicat sert à ça aussi. Hein. Moi, je sais que le syndicat CGT, on a toujours été dans les règles, on a toujours fait tout ce qu'il fallait avec... Les différentes structures du syndicat, autant la fédération que l'union départementale que l'union locale.
Mais en même temps, Rémy Dri, vous dites qu'on a toujours cherché à avoir le soutien de la population. Le conflit a été très long. Pour avoir le soutien de la population, il faut aussi que le conflit soit médiatisé. Et pour que les médias viennent, bon, on sait bien comment ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des actions qui soient un petit peu spectaculaires. Comment est-ce que vous faisiez justement donner du grain à moudre, Xavier Mathieu. Non, comment vous faisiez pour essayer de capter sur la longueur l'attention des médias?
Ben, on avait décidé en assemblée, parce qu'on avait une assemblée générale toutes les semaines. Parce que tout à l'heure vous parliez d'intersyndicale. Nous, on avait l'intersyndicale CGC-CGT. Donc, il y avait un travail de communication entre les syndicats et les salariés au quotidien. Pour que les salariés puissent vous suivre, il faut quand même qu'il y ait une communication intense. Donc, c'est qu'il y ait une présence et des échanges au quotidien. Donc, suite à ces échanges, on faisait les initiatives en commun. Mais pour attirer l'attention des médias, vous savez, on a occupé l'usine, ils sont venus nous suivre parce qu'ils ont vu qu'on a occupé pendant quelques temps. On a fait des blocages, on a fait... Mais on a toutes les semaines, on faisait une initiative parce qu'il fallait pas qu'on se fasse oublier. Mais on a toujours été dans les règles, on n'a jamais fait de débordement, donc s'est battu avec les lois de la République. Je veux dire en étant dans les règles.
Est-ce que ça oblige pas alors justement ces conflits un peu longs, parce qu'il me semble que c'est aussi un des thèmes de votre film Stéphane Brisé, aller vers des actions de plus en plus spectaculaires pour continuer à avoir les médias avec soi, aller jusqu'aux 20h, avec des fois d'ailleurs un piège, hein, parce que le média peut très vite se retourner
voilà,
contre.
Voilà, c'est ça. Le paradoxe, c'est que le conflit a besoin d'images pour exister, perdurer, et en même temps, ces mêmes images peuvent se retourner contre le conflit. Et alors, il y a des images, des situations où les salariés peuvent convier les images. Dans le film, on voit convier les médias. On le voit, il force les portes du MEDEF dans le film. Au départ, tout ça est assez bon enfant. Ils veulent rencontrer le patron du MEDEF pour lui remettre un document. Et finalement, Il ne vient pas, il envoie des cadres du MEDEF, etc. On les fait tourner en rond. Et à l'arrivée, les CRS interviennent entre temps, ils décident de dégager tout le monde. Et les images, à ce moment-là, deviennent spectaculaires. Et à ce moment-là, c'est le début. Ça se dit d'ailleurs, ça s'exprime dans la scène que vous avez fait écouter tout à l'heure. Les mecs commencent à dire, ouais, mais on s'est fait dégager du MEDEF, on est passé pour des abrutis. Et l'autre dit, mais on n'est pas des abrutis, t'as bien vu que c'était pas notre faute. On n'a rien fait de mal. Il dit, oui, mais dans les images, on passe pour des abrutis. Et donc, à ce moment-là, l'image qui a été utile se retourne contre les salariés. Et là, ça commence à être un drame et un sujet de déliquescence du groupe aussi.
Et ça, vous en avez fait directement l'expérience, vous, Xavier Mathieu, à travers la lutte des Conti. Le jour de la décision du tribunal de grande instance qui valide le plan social de Continental, même si après, quelques années plus tard, la Cour de cassation expliquera que cette fermeture d'usine n'avait pas lieu d'être. À ce moment-là, donc
il y a la Cour de cassation. On a refait toutes les procédures.
Bien sûr, ouais. Je voulais pas faire tout le détail, mais en tout cas, au bout du compte, voilà.
La validation, elle a été faite au tribunal de Sarreguemines, là où était l'autre maison, l'autre usine du groupe. Ou plus ou moins, on a fait pression sur les juges en expliquant que s'ils foutaient le bordel à l'usine de l'Oise, peut-être que c'est l'usine de Sarreguemines qui fermerait après. Donc,
en tout cas, il y a eu des pressions. Au bout du compte, la justice vous a donné raison après vous avoir donné tort au départ. Et c'est le jour où vous apprenez justement cette décision qu'il va y avoir le saccage. Alors, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, mais de la sous-préfecture de Compiègne. Et le soir même, vous êtes interviewé dans le JT de France 2 par David Pujadas.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose la question.
On ne regrette rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens?
Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas crever.
Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous.
Voilà, donc ça, c'était vous, Xavier Mathieu. On est en quelle année? 2009, hein, c'est ça. Donc David Pujadas, voilà, qui vous interroge brièvement dans le JT de France 2. Est-ce qu'à ce moment-là, vous comprenez, étant donné les questions qui vous sont posées par ce journaliste, que sur le terrain au moins médiatique, vous êtes passé à autre chose et que la lutte des Conti, qui pouvait être une lutte soutenue par l'opinion publique, ça allait être plus compliqué après?
En fait, c'est la première fois que je vais dire ça et je vais le dire. Je remercie David Pujadas parce que les questions qu'il m'a posées m'ont permis à la limite de lui rendre la réplique à la hauteur de sa question. Et je pense que ce reportage est tellement puissant, il est puissant. D'ailleurs, je vais vous avouer, je sais pas que c'est Pujadas qui me parle. Je sais même pas que je suis aux 20h, tellement je suis fracassé, tellement je suis bouleversé, tellement on vient de fracasser la sous-préfecture, on vient de fracasser le poste d'entrée de l'usine. Je sais même pas à qui j'ai parlé, je le découvre 3 jours après, au zapping de Canal+, que c'est à David Pujadas que j'ai parlé. Je le sais pas. Mais je le remercie d'avoir été arrogant, d'avoir eu ce ton hautain et envers moi, parce que ça m'a permis de lui répondre dans s'il avait été avec de la pitié, j'aurais répondu comment? J'aurais pas. Moi, c'est pas. Je préfère qu'on me parle comme ça, en fait. C'est plus facile pour moi. Je préfère qu'on m'agresse quand j'ai envie de dire des choses violentes. Je préfère qu'on m'agresse. Mais oui, on aurait voulu, et je me suis rendu compte bien après que cette interview a été d'anthologie pour les gens. Tous les gens m'en parlent parce que ils avaient un mec en face qui demandait à un délégué de se mettre à genoux et de dire oui, pardon, excusez-nous, on n'aurait pas dû le faire. Et il a un mec en face de lui qui lui dit, mais vous plaisantez ou quoi? Je m'excuser, pourquoi? Et voilà, je, C'est Pujadas m'a interviewé comme une interview. Et j'ai même vu son interview face à Sarkozy. Il lui pose la même question. Il lui dit, est-ce que vous regrettez le yacht? Est-ce que vous regrettez machin? Il a la même chose. C'est la façon condescendante de vouloir que les gens s'excusent toujours d'avoir fait des trucs. Non, j'ai pas à m'excuser. Je suis fier de ce qu'on a fait. Je suis prêt à assumer. On a pété la sous-préfecture.
Mais parce que vous l'avez aussi payé quand même.
Oui, mais
au moins personnellement.
J'étais poursuivi. J'étais condamné. J'ai refusé de donner mon ADN suite à la condamnation. J'étais condamné pour refus de prélèvement ADN et je suis encore en procès aujourd'hui contre Continental. Je suis le seul. Il n'y a plus que moi sur 1113, il n'y a plus que moi qui suis en procès. Ils ont fait tous les appels possibles, ils ont fait des appels pour personne sauf pour moi. Voilà, j'en suis là et puis en même temps, une fois de plus, ça me rend fier. Je me dis, je ne me suis pas trompé parce que ces gens-là s'acharnent sur moi. Et donc, ça prouve que je ne me suis pas trompé. Je suis fier de ce qu'on a fait. Mais c'est pas des combats qui sont faciles. Et la violence... Je vais vous dire un truc. Ce qui a sauvé les Conti, après ce saccage de la sous-préfecture, c'est la solidarité et la fraternité des Conti. Ça a été un truc monstrueux. Les médias ont fait la course dans la cour. Il y avait les 1000 personnes en Assemblée Générale. Ils ont fait la course. Ils ont fait toutes les personnes, une par une, pour essayer d'en trouver un, pour dire « Je suis pas d'accord, c'est dégueulasse, je suis pas d'accord. » Ils n'en ont pas trouvé un seul. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau, c'est pas le saccage à la sous-préfecture, c'est pas de ça. C'est qu'ils n'ont pas trouvé un mec pour dire, comme les médias arrivent à trouver des gens sur les quais de gare en ce moment avec les cheminots pour dire « Ouais, je suis dégueulasse, faut que j'emmène mon fils à l'école, c'est privilégié, blablabla ». Ils en trouvent, chez Conti, ils n'en ont pas trouvé un, pas trouvé une personne pour critiquer. C'est ça qui est beau au fond du compte.
Et d'autant que qu'est-ce qui se passe après ce moment à la sous-préfecture, c'est que l'État rentre dans la tripartite. C'est ouais. ça aussi. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, ils se disent, en fait, ils sont obligés d'arriver jusqu'à ce moment d'incandescence de la colère pour que l'État décide, OK, on va venir discuter avec vous. Et ça fait longtemps qu'ils demandaient que l'État rentre dans la tripartite. Ce que je trouve extraordinaire dans ce document, et qu'Evaï, Xavier parlait d'anthologie, c'est un moment d'anthologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on revoit maintenant, c'était en 2009, c'est une image très très forte qui existe, de la même manière que l'image des chemises déchirées d'Air France, c'est une image aussi d'anthologie. Et ce qui me fascine quand je vois ça, je me rappelle aussi des larmes d'Edouard Martin quand il, bien avant qu'il soit député européen PS, mais quand il était délégué CFDT, et en larmes, il disait « ils nous ont trahis ». C'est des moments comme ça. En quelques secondes, ces hommes-là, Xavier Mathieu, Edouard Martin et plein d'autres, expriment en quelques secondes une vérité absolue. Il parle à ce moment-là des hommes et des femmes, de leur souffrance, en quelques mots. Xavier est à un endroit de pure vérité absolue. Alors je ne suis pas certain que Pujadas consciemment soit dans une forme de condescendance. Je pense qu'il a intégré certaines choses. C'est une autre question. Je pense qu'il a intégré justement l'idée du tout le monde le mea culpa. Tout le monde son mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa. Chacun pour s'être fait sucer sous un bureau. Donc tout le monde doit s'excuser de tout en fait. Et dans ce monde où tout le monde doit s'excuser, est-ce que vous excusez? Mais le problème n'est pas de s'excuser. Là. C'est pourquoi on en arrive à ce que des hommes et des femmes se mettent en colère. Elle est là la question qui devrait se poser. Et à ce moment-là, des hommes rares ou des femmes sont capables à ce moment-là devant les médias, en plus dans un temps médiatique, dans un format médiatique, d'exprimer, d'être un pur endroit de vérité et d'exprimer une colère qui rassemble la colère de tout le monde.
Ça peut être d'ailleurs des moments, Rémi Dré, où on se rend compte dans ce genre de lutte, de ressources dont on n'imaginait peut-être pas être capable. Est-ce que vous, au début du conflit, vous pouviez imaginer que vous tiendriez aussi longtemps et que vous vous retrouveriez aujourd'hui membre du conseil d'administration d'une SCOP qui reprenait l'usine?
Ah non, du tout. Moi, j'étais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui. La lutte m'a été émancipatrice, m'a appris un côté bien caché de la France qui est le côté solidaire. Il y a une grande solidarité en France, énorme, puisque nous on l'a vécu pendant 1336 jours. Il y a aussi le fait que l'union, vraiment l'union des hommes et des femmes fait une force. Nous, à l'époque à Fralib, ce qui a fait qu'on a mis un rapport de force en face, que la direction était obligée de faire avec nous. On s'était donné un point d'honneur à ce qu'aucun boulon de l'usine ne sorte. Parce que l'utilité industrielle était le plus important pour nous. Et aujourd'hui, on en voit les fruits, puisque sans cet outil, on n'aurait pas pu créer notre SCOP. Mais c'est vrai que pour moi, la lutte syndicale m'a permis de m'émanciper, de vouloir apprendre et connaître d'autres métiers, de pouvoir appréhender la société d'une autre manière, puisqu'on, à force de lutter, puisqu'on a lutté syndicalement, mais il y avait aussi une lutte juridique. Donc vous apprenez le langage juridique, on va dire. Donc pas tout le monde se comprend, mais à force de lutter, on commence à comprendre plusieurs domaines. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de fatalité.
Et puis vous apprenez aussi, Rémy Dri, le langage de la direction d'une entreprise, fut-elle sous forme de coopérative. Est-ce que ça vous a aussi appris peut-être une autre façon d'aborder la question qu'on pose ce soir, c'est-à-dire jusqu'où aller pour sauver son usine, plus seulement quand on est un simple salarié, mais aussi quand on est à la fois salarié et patron, puisque c'est le cas dans les scopes.
Oui, mais bon, c'est pas pareil que dans une entreprise normale, on va dire, puisque on est dans une SCOP, donc l'Assemblée Générale a droit à toute décision. Si vous voulez, le comité d'administration est juste là pour décider des stratégies et les soumettre à l'Assemblée Générale.
Oui, mais vous êtes quand même confronté à un univers concurrentiel, par exemple les boîtes de thé que vous vendez. Et voilà, vous n'êtes pas seul dans les rayonnages. Il faut bien aussi tenir compte de l'environnement.
Exactement, c'est une lutte au quotidien. Mais vous savez, la lutte qu'on a menée nous a permis aussi à être plus forts aussi. Parce que la lutte qu'on a menée n'a pas été simple. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de joie. Vous savez, on a eu quand même 4 plans sociaux pendant ces 1336 jours. Donc, et plus la lutte syndicale, donc physiquement, c'est quand même... Mais ça vous rend quand même fort. C'est apprendre à gérer et à... Nous, on ne se considère pas comme une direction, mais comme des responsables. Le mot responsable, ce que les directions dans une entreprise lambda et dans l'entreprise où on était, n'étaient pas responsables. Ils dirigeaient juste.
Voilà, donc les auditeurs de France Culture, il faut bien qu'ils entendent ça. Il faut bien que maintenant, quand vous allez dans vos supermarchés, quand vous avez le choix entre du 1336 et du Nil Vert, du L'Éléphant, bah, il vaut mieux acheter du 1336 parce que ça vient... je suis ému quand je dis ça. Parce que ça vient dans les poches des travailleurs, des familles, et que cet argent, ils le restituent, ils le remettent dans les sociétés, ça vient pas dans les poches d'actionnaires qui vont planquer leur pognon dans des paradis fiscaux. Et moi, j'encourage et je suis très fier de mes potes de Fralib, chez qui d'ailleurs j'ai été tourné, ils nous ont prêté l'usine pour tourner un film un jour. Et moi, je dis qu'il faut toujours favoriser ça. Et aller voir le film En Guerre, parce que c'est le plus bel hommage qu'on ait pu faire à la classe ouvrière, et je remercie encore du fond du cœur Stéphane Brisé de l'avoir fait, et de l'avoir fait aussi bien, parce que je peux le dire aujourd'hui, personne n'a jamais fait un film d'une clarté et d'une justesse aussi forte sur des conflits sociaux et sur une lutte d'entreprise. Et je suis fier de ce travail, vraiment.
Et c'est un film qu'on peut voir en salle, mais que vous allez aussi projeter, notamment la semaine prochaine, à Blanquefort, Stéphane Brisé, auprès des salariés.
Juste avant, quand j'entends parler madame, je dis mais quelle intelligence. Et au moment où son outil de travail s'arrête, ça révèle, elle dit c'est ça a été une expérience émancipatrice. L'intelligence de son propos, la manière dont il s'exprime, l'intelligence avec laquelle Xavier exprime son propos, l'intelligence, toute cette puissance d'intelligence, force est de constater que le système le tient à l'étouffer, toute cette intelligence. Et quand ça s'exprime, qu'est-ce que c'est beau. Et effectivement, alors le film, justement, on l'accompagne dans différents endroits. On sera le 25 avec, justement, Xavier et Édouard Louis, aussi, pour une soirée que je souhaitais ainsi, avec les salariés de Blanquefort et Philippe Poutou, qui sera là, et les salariés, pour discuter. Et il y a, je sais qu'aussi demain soir, il y en a plein des rendez-vous comme ça, demain soir à côté de Toulouse, dans une ville qui s'appelle L'Union, ça ne s'invente pas, au cinéma le Lumière. Il y aura aussi, voilà, le film sera projeté. Il y a des discussions à l'issue de ça. Donc là, je ne serai pas là demain soir, mais c'est partout que le film crée du lien et du dialogue.
Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, une fois n'est pas coutume, mais on avait envie de mettre à l'honneur un film dans cette émission de débat d'actualité. Merci beaucoup à tous les trois.
Dernière grande solidarité aux cheminots qui se battent depuis 2 mois et demi, qui ne se battent pas seulement pour leur statut. Ils se battent d'ailleurs pas pour la survie de leur statut. Ils se battent pour les usagers. Et je pense que ça, c'est une grande lutte de fraternité. Bravo aux cheminots et je suis de tout cœur avec vous.
Merci Xavier Mathieu, merci Stéphane Brézé, Erim Idri, merci également à nos camarades de France Bleu Provence qui assuraient la liaison avec Marseille.